billets d'Europe, la chronique européenne animée par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. On a entendu dans la bouche de responsables politiques, anciens ou actuels, que le coronavirus pourrait tuer l'Union européenne. Cette Union, impuissante à protéger, est donc inutile aux yeux des citoyens, Daniel.
Eh bien, contrairement à ce que certains ne cessent de répéter, dans la lutte contre le coronavirus, l'UE a été active dès les premiers jours de l'épidémie en Europe. Je vous donne quelques exemples de mesures. Le 28 janvier, l'Union européenne a activé le mécanisme européen de protection civile pour le rapatriement des citoyens européens résidant en Chine. Le 31 janvier, elle a débloqué 10 millions d'euros pour la recherche sur le virus dans le cadre du programme de recherche européen Horizon 2020, effort qu'elle a amplifié à la mi-mars avec la mobilisation de 140 millions d'euros de fonds publics et privés pour la recherche sur les vaccins, les diagnostics et les traitements. Le 24 février, elle a annoncé la création d'un fonds spécial de 232 millions d'euros pour soutenir l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la recherche de vaccins, la surveillance épidémiologique en Afrique et pour aider les États membres à rapatrier leurs citoyens. Le 16 mars, l'entreprise allemande CureVac, prononciation non assurée, en pointe dans la recherche d'un vaccin et à ce titre convoité par les États-Unis et Trump, a reçu un soutien financier de 80 millions d'euros. Le 19 mars, alors que le nombre de cas en Europe atteint 83 000 contaminés, donc l'UE a créé une réserve commune de matériel médical pour des respirateurs, des masques et tout ça à hauteur de 50 milliards d'euros. J'ajoute que deux jours plus tôt, des restrictions à l'entrée dans l'Union depuis les pays tiers ont été instaurées pour les voyages non essentiels et ce pour une période de 30 jours.
Mais alors Daniel, comment expliquer ce procès en inaction dans la crise sanitaire ?
Alors, il y a sans doute de nombreuses explications, parmi lesquelles trois me paraissent fortes, je vous les livre. L'ignorance des mesures prises à Bruxelles, liées aux difficultés traditionnelles de la communication de l'UE, en termes de réactivité et de relais dans l'opinion. Qui a su que fin janvier, l'Union européenne avait envoyé 12 tonnes d'équipements de protection en Chine ? Ces difficultés bruxelloises ont été exacerbées dans la tempête émotionnelle de la crise, bien sûr, par la priorité donnée dans tous les pays à l'information nationale et au témoignage humain, ce qu'on appelle le témoignage humain. La deuxième explication, c'est l'attente illusoire de la part des citoyens européens d'une action sanitaire européenne visible et forte. Illusoire, pourquoi ? Parce que l'Union n'est pas un État et elle n'intervient pas concrètement sur le terrain. Par ailleurs, en matière sanitaire, il faut le rappeler, l'Union ne possède qu'une compétence d'appui. Je lis, c'est l'article 6 du traité de l'Union européenne. L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. On le voit dans cette affaire. Dans la crise sanitaire, dans la réponse sanitaire, le rôle premier incombe aux États. Et puis il y a une troisième explication, c'est l'absence d'unité des réponses nationales que tout le monde a constaté. Face à l'urgence, et malgré l'appel de l'UE le 10 février à un renforcement de la coopération et de la coordination internationale, les États membres ont adopté des mesures sanitaires en ordre dispersé. En interne, certains ont opté pour un confinement strict, l'Italie, la France, l'Espagne. D'autres pour un confinement relatif, l'Allemagne, la Slovaquie. D'autres n'ont même pas confiné, comme la Suède ou les Pays-Bas. Sur les frontières, comme le permet Schengen, des États, à la mi-mars, ont fermé leurs frontières, telles le Danemark, la Pologne, l'Espagne. D'autres ont établi des restrictions plus ou moins fortes, filtrage intensif en Allemagne ou contrôle renforcé en France. Et d'autres, enfin, ont maintenu ouvertes leurs frontières, comme la Suède ou les Pays-Bas.
En somme, le Covid-19 a fait éclater l'Union ?
Alors, ce serait le cas, Yann, si le principe fondateur de la solidarité était rejeté. Certes. La solidarité a souffert. Par exemple, lorsque la France et l'Allemagne ont décidé début mars de bloquer leurs exportations d'équipements de protection dont l'Italie, à ce moment-là, manquait cruellement. Mais, rappelé à l'ordre, après 9 jours de blocage, les deux pays ont levé l'interdiction d'exportation. Par ailleurs, des initiatives communautaires et nationales ont réaffirmé le principe de solidarité. Le 13 mars, l'Union a lancé une procédure conjointe accélérée pour la passation de marché pour des équipements et des médicaments qui a été soutenue par 25 pays. Fin mars, outre l'envoi de matériel en Italie et en Espagne, 6 Länder allemands, en réponse à l'appel de la présidente de la Commission, ont accueilli dans leurs hôpitaux des patients français et italiens. Enfin, j'ajoute, en dépit des restrictions nationales à la libre circulation, le marché intérieur a continué à fonctionner pour les marchandises, notamment périssables, et pour le matériel médical.
Alors, le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre le Covid-19 paraît second, mais en dehors du sanitaire, que peut-on attendre d'elle ?
Ah bien, on peut attendre beaucoup, et c'est dans le traitement des conséquences économiques et sociales que le rôle de l'Union devient primordial. L'Union européenne s'est préoccupée très tôt des effets économiques et sociaux de l'épidémie. Le 13 mars, la Commission a débloqué des fonds pour aider les États à soutenir leur système de santé, ainsi que les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. Début avril, le programme CHE, sûr, si on veut, prévoit d'allouer jusqu'à 100 milliards d'euros à des prêts pour financer les dispositifs de chômage partiel des États membres. Le 16 mars, la BEI, Banque Européenne d'Investissement, a mobilisé jusqu'à 40 milliards de financements pour les entreprises européennes touchées par la crise. Enfin, la Banque Centrale Européenne, la BCE, a annoncé le 18 mars un plan d'urgence de relance historique de 750 milliards de rachats de titres qui, cumulé avec 120 milliards annoncés la semaine précédente et avec 20 milliards d'euros mensuels lancés à l'automne, représente plus de 1000 milliards d'euros. C'est ce que certains appellent un véritable bazooka financier. Alors pour la reprise, les États les plus vulnérables auront besoin de soutien et de solidarité. Si le recours au mécanisme européen de stabilité est acquis à hauteur de 240 milliards d'euros, la mutualisation des dettes à travers ce que l'on appelle les bons du Trésor européen, les Corona Bonds, ne l'est pas en raison, tout le monde le sait, de l'opposition de pays du Nord, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Finlande. Là se situe sans doute le véritable test de la solidité de l'Union. Alors au total, 10 ans à peine après la crise financière, l'épidémie du Covid-19 constitue une nouvelle épreuve douloureuse pour les Européens. Pour le projet européen, elle souligne une nouvelle fois une situation d'entre-deux politiquement périlleuse. L'Union se réduit-elle à la coopération d'États repliés sur leurs frontières ? Ou vise-t-elle leur intégration dans une communauté de destin ? C'est bien ça la question.